Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui n'a pas toujours saisi le sens caché de certains emballements critiques. C'est ainsi le cas avec ce bon vieux Darren Aronofsky qui, non content de nous avoir pourri notre adolescence avec la BO lancinante de son Requiem for a Dream et son crin-crin utilisé depuis par tous les monteurs télé sans imagination dès qu'il s'agissait de mettre un peu de drama dans leur reportage à la con, nous revient régulièrement avec des films aux qualités amplement discutables et pourtant loués régulièrement comme la lumière divine tombant sur le bas-peuple. Son dernier né en date Mother vient-il changer la donne? C'est ce que nous allons voir avec le duo mystère mais sympathique néanmoins de critiques. Réunis ici au Bar à Bulles où nous faisons en public notre rentrée, Anaïs Bordage. Salut Anaïs.
Salut.
Et Julien Dupuis. Salut Julien.
Salut.
C'est nos ciné épisode 97 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Mother, pour la faire courte, c'est l'histoire d'un couple, celui que forment Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Javier Bardem, qui vivent apparemment heureux et un poil isolés dans une maison hors du temps jusqu'à ce que cette tranquillité soit bouleversée par la visite d'un second couple formé de Michelle Pfeiffer et Ed Harris. You give and you give and you give. It's just never enough. Et derrière la caméra, on l'a dit, c'est le redoutable Darren Aronofsky, à qui l'on doit entre autres Pi, Requiem for a Dream, The Wrestler, Black Swan ou plus récemment Noah. On va évoquer dans le détail sa carrière, mais si vous le permettez l'un et l'autre, on va commencer par l'actu récente. Qu'est-ce que vous avez pensé de Mother? Anaïs, tu me regardes, tu as l'air prête à démarrer, je t'écoute.
Oui, j'étais un peu dépitée, je l'ai vu ce matin.
Mince.
Et ça m'a pas plu du tout. J'ai trouvé ça assez déplaisant et j'avais vraiment envie de crier dans la salle de cinéma.
Carrément.
Tellement j'étais énervée.
Ouais. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a énervée?
Parlez
plus près du micro.
C'est très frustrant en fait. Je pense que c'est voulu par Aronofsky, mais c'est ultra cruel envers les spectateurs. C'est très frustrant, c'est très répétitif. C'est de plus en plus violent, mais d'une manière totalement gratuite. Et du coup, à la fin, j'avais vraiment envie juste de dire à Jennifer Lawrence, mais casse-toi en fait, casse-toi. Pourquoi t'es là? Ce film est horrible. Casse-toi de ce film, quoi.
D'accord, un message voilà. qu'on lui transmettra, Julien.
Je pense que Darren Aronofsky serait absolument ravi
de ta réaction.
C'est exactement ça qu'il veut provoquer, Julien. Toi, est-ce que tu as eu envie de crier aussi?
Moi, je suis désolé, je vais un peu raconter un tout petit peu ma vie. Il se trouve que
pas de problème. Bonjour Julien.
Bonjour. Ça va? Non, il se trouve que moi j'ai vu le film il y a pas très longtemps, mais je l'ai vu, je crois, avant Venise et dans une version qui n'était pas finie. Ce qui me fait d'ailleurs dire que. Moi, dans ce que j'ai vu, il y avait des effets spéciaux qui étaient un peu dégueulasses, donc je sais pas si...
Ah, toujours dégueulasses.
Ouais, d'accord, okay, parce que moi, c'est comme si c'était pas tout à fait terminé, que je sais que c'était encore des plans truqués qu'ils étaient en train de travailler, je savais pas trop. Et l'avantage de ça, c'est que j'y suis allé vierge.
Oh.
Pure, je ne savais
ça
absolument rien. Non, mais j'avais juste vu le premier teaser, je crois, quelque chose comme ça. Et sans trouver que ce soit un bon film, j'y ai à peu près trouvé mon compte pendant les deux premiers tiers. Mais en précisant, et c'est pour ça que je me permets de raconter ma vie, c'est que cette réception, j'ai conscience qu'elle est extrêmement fragile, j'ai conscience qu'elle ne tiendra pas du tout sur un second visionnage, mais il y avait suffisamment de petites choses ici et là à grappiller pour que je sorte pas énervé comme je suis sorti énervé de The Fountain ou de Black Swan beaucoup moins de Noé parce que voilà. Déjà je trouve que Aronofsky avec tous ses défauts, c'est un mec qui a quand même des qualités, c'est que il a des sujets qui sont intéressants. Moi Noé par exemple, je trouve que c'était un super sujet, faire une espèce de d'épopée d'héroïque fantasy en se basant sur la Bible, en revenant aux sources, etc. Je trouve que c'était super intéressant. Le résultat est ce qu'il est, hein, mais c'était super intéressant. Je trouve que Black Swan de retourner, même si c'est une idée qui revient aussi de Dario Argento et de Suspiria, mais profiter de ce monde très fermé qui n'a pas évolué depuis des siècles de la danse classique pour faire un film fantastique, je trouve que c'était une bonne idée. Je vais pas faire toute la filmo de
on va le faire après.
Bon, voilà, je trouve que c'est un quelqu'un qui a donc, et là, je trouve qu'il y avait un bon sujet, tel que moi, je l'ai décodé, parce que ça, c'est une autre histoire aussi. Mais j'ai vu dans le film, alors je suis désolé, je vais spoiler, et du coup, moi, la réception que j'ai eue, qui est plutôt positive, je vais la niquer, je pense, aux spectateurs en le disant.
T'es vraiment
un
salaud.
Je l'ai vu comme une relation entre un artiste et sa muse. Ce qui est une métaphore qui, pour moi, je l'ai pas si souvent vu que ça au cinéma. Et je trouvais ça plutôt intéressant. C'est-à-dire que surtout que ce soit raconté d'un point de vue très très subjectif, puisque c'est ça la trouvaille entre guillemets du film, c'est que c'est vu du point de vue de la muse en fait. Donc de savoir comment la muse elle perçoit le processus créatif. C'est-à-dire qu'on le voit très souvent par le point de vue, je sais pas moi, d'un spectateur, d'un usager de l'œuvre d'art, ou souvent du point de vue de l'artiste en lui-même. Mais de la muse, j'ai pas comme ça, enfin vous allez peut-être me contredire, mais j'ai pas d'exemples spécifiques qui me viennent en tête. Donc j'ai trouvé ça, une fois que j'ai réussi à décoder ça, je me suis dit, ah, où est-ce qu'il va nous emmener et tout. En plus, j'ai trouvé que du coup, la fin faisait extrêmement débat, était extrêmement radicale, alors que moi je trouve que Aronofsky, c'est plutôt un mec un peu en céphalogramme plat pour. Justement faire de vagues sans en faire vraiment dans les festivals. Là je trouvais qu'il y avait un point de vue assez radical que moi je mettais sur le compte en fait de la réception de Noé et de ce qui s'était passé, parce que Noé, je crois que c'est un film qui a eu quelques soucis en post-production, en tout cas avec le studio, etc.
Et après sa sortie aussi.
Voilà, et en plus il y a un jeu de pistes, c'est pas très fin, mais c'est pas inintéressant. Notamment, je me suis amusé à déceler beaucoup d'octogones en fait dans l'image. Donc déjà il a pris une construction, enfin c'est une maison victorienne, et les maisons victoriennes étaient construites sur un octogone, et il en a truffé comme ça partout en fait dans l'image, y compris dans le déplacement de certains des personnages. Il capitalise là-dessus. L'octogone, c'est une charge mythologique très très forte, hein. Je crois qu'en alchimie c'était la fusion entre l'humain et le divin, et je me suis dit, oh, bah, ça se noue bien quoi, tout ça.
Ceci il étant va t'embaucher dit, hein, tu
alors
sais,
ceci
Julien.
Étant dit, ce qui est très amusant, c'est que j'ai appris ensuite que lui, c'était pas du tout son but.
Ah d'accord.
C'était pas du tout la métaphore que moi j'avais vue. Alors je pense que il a un peu travaillé là-dessus et tout. Et alors, est-ce que je peux la dire du coup, la métaphore, quand même?
Vas-y.
On spoil comme des cochons.
On spoil comme des cochons. Lui, alerte spoiler. Si vous n'avez rien vu et que vous voulez le voir.
En fait, lui, son idée, c'est que Jennifer Lawrence est mère nature, on va dire. Javier Bardem serait plutôt Dieu. Et c'est Dieu qui crée l'homme, et comment l'homme investit en fait la création, l'Éden, et le pervertit et le détourne. Et alors, je trouve que cette métaphore-là, pour moi, hein, là pour le coup, ça joue pas en faveur du film. On retrouve le côté, mais qui est déjà dans le film tel que moi je l'avais vu, hein, ultra balourd, ultra ballot et ultra bourrin. Voilà. Mais je peux, ça, même en sachant ça, je ne peux pas nier quand même ma première impression que je voulais vous faire partager, même si ça a été de façon un petit peu laborieuse.
Laborieuse? Non, c'était pas laborieux du tout, c'était très bien. Julien, Anaïs, est-ce que toi, ces métaphores t'ont prise à la gorge, ou c'était juste l'apocalypse?
Ouais, c'était juste l'apocalypse. Mais oui, en fait, moi aussi, tout de suite, j'ai vu les références bibliques, entre guillemets, du film, où voilà, c'est sur la création de l'homme et de la femme, et la création de la nature, et le fait que, en gros, la mère nature est complètement martyrisée par les êtres humains, quoi, comme Jennifer Lawrence est martyrisée dans le film. J'ai trouvé ça un peu lourdingue, quoi, en termes de métaphore. Bon, on sait que c'est un peu son truc, quoi, les métaphores lourdingues.
C'est un peu sa marque de fabrique, j'ai envie de dire.
Mais je trouvais que dans ses précédents films, il arrivait toujours à trouver un équilibre. Et là, vraiment, pareil, j'ai trouvé les deux premiers tiers pas mal, plus dans un thriller classique. Et en fait, le dernier tiers, c'est vraiment n'importe quoi. Et on peut admirer l'ambition du truc, mais ouais, c'est très 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 lourd, quoi.
Est-ce que c'est pas un peu à l'image de toute sa filmographie? Je pose la question à dessein, parce que je sais que vous avez l'un et l'autre défendu certains de ses films.
J'ai trouvé ça plus lourd que ses autres films, qui, je trouve, s'arrêtaient un peu au bon moment. Et là, en fait, il pousse un peu sa formule, qui est toujours la même dans tous les films, très très loin, quoi. C'est-à-dire qu'il part d'un petit mécontentement ou d'une petite névrose qui, à chaque fois, grossit. Et là, en fait, ça part vraiment, mais... Enfin, voilà, je peux pas spoiler, mais ça va vraiment...
Si, tu peux spoiler, Donne-nous des exemples, Anaïs.
Alors, des exemples... Bah, en fait, le principe de base, c'est des intrus qui arrivent dans la maison, enfin, des invités, mais qui se comportent un peu comme des intrus, qui sont ultra mal polis. Et sans gêne, et en fait ça dégénère très très vite, et ces gens-là qui sont invités dans la maison de Jennifer Lawrence et Javier Bardem se comportent vraiment comme des porcs, quoi. Enfin, ils sont odieux, et d'une manière complètement absurde et surréaliste, et ça part très très loin, ça se transforme en guerre en fait. Enfin, c'est justement une métaphore du monde entier et du fait que la guerre détruit le monde. Et du coup, à un moment, il y a Kristen Wiig qui se ramène, qui est l'éditrice de Javier Bardem, qui est donc un auteur, et qui se met à exécuter des gens. Voilà, qui sont allongés par terre avec un sac noir sur la tête. Enfin, vraiment, on comprend pas pourquoi, ça dure 10 secondes, mais voilà. Enfin, ça part vraiment dans du gros, gros délire. Et
tu m'as dit, avant qu'on enregistre cette émission, que ça t'avait fait penser à Antichrist de Lars von Trier.
Oui, bah dans le sens où c'est hystérique de la même manière, et c'est un peu le même principe d'un couple dans une maison qui part totalement en vrille, quoi.
Personne ne se coupe le clitoris avec un sécateur, rassure-moi.
Non, mais bon, à un moment, Jennifer Lawrence est complètement carbonisée, littéralement. Et Javier Bardem lui dit qu'il est triste, qu'elle souffre. Elle lui dit oui, mais je souffre surtout de ne pas t'avoir contenté. Alors qu'elle est carbonisée, quoi. Donc, on a un peu envie de lui dire, bah non, en fait, je pense que tu souffres vraiment du fait que tu vas mourir d'ici 10 secondes. Enfin, voilà, les dialogues, en plus, sont vraiment... un peu lourd, quoi.
D'accord. Vous m'avez super bien vendu l'un et l'autre, Mother, je vous félicite.
Désolé pour tous les spoilers.
C'est pas grave, c'est fait pour ça aussi, les émissions sur le cinéma. Et si on parlait un petit peu donc, du reste de sa filmo, comment vous êtes entré dedans, Monsieur Dupuis, Julien? Qu'est-ce qui t'a attiré, amené dans son œuvre, ou peut-être pas attiré du tout, d'ailleurs?
Alors, moi, j'ai vu Pi à sa sortie.
Ouais, ce film pour étudiants en philo, tu
vois. Ouais, j'avais trouvé ça quand même super chiant. Avec toujours ce truc... Non, mais toujours ce truc, cher Aronofsky, qu'il y avait un sujet, moi, que j'aime bien, qui est le fantastique, qui part des mathématiques, en fait. Alors, c'est pas du tout du niveau d'un excellent film qui s'appelle Primer, par exemple, pour citer un autre exemple plus récent. Mais il y avait ça. Il y avait un autre truc aussi qui me semblait évident, déjà, chez Aronofsky, c'est que c'est un petit malin et il a vu les films des copains. C'est-à-dire qu'il avait une espèce de culture de base, on va dire, de films un peu obscurs, culte des années 70, et il y allait déjà, quoi. Il piochait déjà énormément. Ça s'est vraiment confirmé par la suite, surtout sur Requiem for a Dream, où il cite, enfin, il reprend carrément des trucs de schizophrénia, par exemple, qui est un film de serial killer autrichien absolument traumatisant, quoi, mais il reprenait exactement des trucs. Il cherchait, par exemple, du côté de Jodorowsky, etc., dans le reste de sa carrière. Donc voilà, je m'étais gentiment fait chier devant Pi, et aux grandes dames de certains de mes bien-aimés collègues, moi, j'avais bien marché sur ma première vision de Requiem for a Dream, en gardant tout de même cette réflexion que j'ai encore sur Mover, que... Ce mode de fonctionnement était totalement éphémère. C'est-à-dire que c'était... peut-être que je suis particulièrement réceptif ou bon client de ce genre de choses, mais j'avais conscience que ça a marché une fois.
Oui.
Et que c'était pas suffisamment solide pour fonctionner une deuxième fois. Ça me semblait totalement évident, et j'ai aucune envie de revoir le film aujourd'hui. Le score, comme tu l'as dit en ouverture, me sort un peu par les trous de nez. Mais je pense que c'est bon, ça c'est annexe de Aronofsky et de Clint Mansell, c'est pas de leur faute, mais voilà. Et le truc aussi, c'est que, par contre, pour rester dans les points positifs, c'est que j'ai sur Requiem for a Dream, et puis ça s'est un peu confirmé par la suite, je trouve qu'il a un bon goût pour le cast. J'aime bien souvent ces castings, c'est pas rien, et ça se retrouve d'ailleurs dans Mover. C'est-à-dire que moi, on en a pas du tout parlé, mais Michelle Pfeiffer, même si c'est une banalité que tous les critiques ont sorti, bah moi ça m'a fait plaisir de l'avoir comme ça. Moi je trouve que c'est une grande actrice, hein, Michelle Pfeiffer. Je trouve l'interprétation qu'elle a donnée, par exemple, dans Batman le défi de Burton, c'est une des meilleures interprétations de comédienne que j'ai jamais vues de ma vie, quoi. Et elle est vraiment super, elle est bien utilisée,
le,
en fait.
Le serpent,
elle est bien. Elle est
dans
bien ce que oui
et le serpent biblique,
et ça fonctionne bien, en plus. Bon, malheureusement, elle est extrêmement trafiquée et tout, mais du coup son couple, qui l'a choisi, Adaris, qui est aussi un excellent acteur, ça fonctionne vachement bien. C'est-à-dire que lui, par contre, il le filme avec bien l'âge, bien tapé et tout, et c'est vrai qu'il y a une balance comme ça entre les deux, un malaise qui se crée, qui moque, je trouve, qui fonctionne correctement. Moi, ça s'est gâté avec Aronofsky, avec The Fountain,
ouais.
qui, pour le coup, alors là, moi, c'est un rejet, mais hors total. Je trouve que ça a été un film, mais d'une bêtise abyssale. Lui, il le présentait à l'époque comme une espèce de néo-Matrix, etc. Mais je pense qu'il aurait souhaité être aussi intelligent que Matrix, quoi. Fontaine, je trouve ça, c'est super con.
Ah oui, c'est vraiment très con.
Super relou. Et je trouve qu'en plus, les règles de mise en scène qui s'étaient lui-même fixées pour recréer les rimes visuelles qu'il y avait déjà dans Requiem for a Dream, qui encore une fois pour moi avait fonctionné à l'époque, je trouve que même là il les avait pas tenus en fait jusqu'au bout. C'était même pas un film trippant. Et je trouve d'ailleurs qu'il y a eu un micro, enfin il y a eu des gens qui l'ont beaucoup apprécié, beaucoup défendu, comme à chaque fois d'ailleurs Charles Aronofsky à la sortie. Oui. Mais c'est un film qui est complètement oublié aujourd'hui. Enfin, il me semble quoi, personne n'en parle, non. Personne ne le cite.
Alors qu'on nous disait qu'à l'époque ça allait devenir un film culte.
Voilà, il y avait certains critiques qui avaient dit ah bah ça c'est le nouveau 2001.
Oui, voilà.
Et, des critiques je ne citerai pas, mais c'est le nouveau 2001. Mais d'où quoi. Enfin, je veux dire 2001, Fontaine c'est quoi, ça a une dizaine d'années, un peu plus même. Dix ans après 2001. C'était un phénomène de société. Il y avait eu un avant, après, tu pouvais déjà très clairement le définir. The Fontaine, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quel cinéaste ça a marqué aujourd'hui? Rien, personne, nada, quoi. Et je trouve en plus que tous ces emprunts que je citais au cinéma d'exploitation un peu underground des années 70 étaient d'un basique dans The Fontaine. Tout ce qui était sur la macrophotographie, etc. Il suffisait d'avoir lu un pauvre fascicule sur l'histoire du cinéma pour savoir que, bah oui, Douglas Trumbull et Stanley Kubrick, effectivement, ils l'avaient fait sur 2001 et tout. Enfin, tout ça était d'une pauvreté incroyable. Et je me suis dit, là, il y a vraiment un truc, ce mec-là... que je ne portais pas complètement nu, mais alors moi, il est vraiment tombé très 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 bas dans mon estime, d'autant plus qu'il le présentait comme le grand film de sa vie, le grand projet de sa vie, qu'il avait beaucoup bataillé pour ça, que toutes les billes qu'il avait réussi à gagner avec Requiem for a Dream, il les avait investies là-dedans. Et là, je me suis dit, putain, je suis mal barré dans ma relation avec ce monsieur.
Anaïs.
Oui, mais en fait, je crois qu'il faut. La leçon, c'est qu'il ne faut pas qu'il travaille avec ses meufs, parce qu'il me semble que The Fountain, c'était avec sa femme de l'époque, Rachel Weisz.
Mais je crois qu'il était avec Jennifer Connelly, hein, ceci dit, hein, déjà. Je crois qu'il a un peu cette habitude.
Bon, okay.
Ah mince.
ouais, parce que là, comme il est avec Jennifer Lawrence depuis Mother, et sachant que ça parle d'un artiste qui a 20 ans avec de plus que sa muse et qui la martyrise et qu'il a littéralement le même âge que les personnages dans le film et Jennifer Lawrence, c'est un peu inquiétant.
Mais ça, j'aurais trouvé ça intéressant, tu vois, pour le coup. Enfin bon.
Ouais, je sais pas.
On va ouvrir une hotline pour venir en secours à Jennifer Lawrence très prochainement.
Mais oui, moi j'ai vu Requiem for a Dream quand j'étais ado, donc ça marchait très bien parce que c'est un bon film pour ado.
Ça,
quoi.
Oui, c'est fait pour ça.
Donc je m'étais dit que c'était super profond et vraiment ça a changé ma vie et tout. Mais effectivement, je pense qu'au deuxième visionnage, ça passe beaucoup moins bien. Et j'ai beaucoup aimé Black Swan. Peut-être parce que j'aime beaucoup le lac des cygnes, mais j'avais trouvé justement que l'équilibre était là entre la névrose poussée à bout et alors que là, justement, dans Mother, je trouve qu'il en fait beaucoup trop. Et le symbolisme était tolérable et j'avais bien aimé Natalie Portman. Enfin, Black Swan, je trouve que c'est un de ses meilleurs films, à mon sens.
Julien n'est pas d'accord, j'ai l'impression, mais
moi, je trouve ça un des films les plus cons que j'ai vu de ma vie, je pense.
Mais en même temps, ce qui l'a fait beaucoup de films intelligents.
C'est
enfin,
non, mais celui-là, c'est vraiment bas du front. Moi, je trouve Black Swan, c'est en plus. Alors, encore une fois, je disais tout à l'heure qu'il y avait un bon sujet et tout, mais en plus là, je trouve que les emprunts. Parce que, il est connu pour avoir repris, cité des plans, par exemple, de Perfect Blue, de Satoshi Kon, notamment dans Requiem for a Dream. Il avait acheté d'ailleurs les droits de Perfect Blue, qui est un animé, hein, qui a révélé Satoshi Kon, qui est un grand, grand film, un vrai chef-d'œuvre, pour le coup. Je crois qu'il il pensait plus ou moins en tirer un long métrage et tout. Et là, j'avais justement l'impression de voir ce mec encore qui se référait, je l'ai dit tout à l'heure, à Dario Argento. Et je pense encore une fois à Satoshi Kon, notamment, donc encore une fois à Perfect Blue, c'est-à-dire dans le rapport entre une artiste, son art et la perception du public et le fait qu'elle doive se changer et surmonter ce qu'elle est et tout. Mais alors d'une façon, mais d'une bêtise incroyable, quoi, avec cette imagerie manichéenne, noir et blanc littéralement, et avec la duplicité avec les deux personnages féminins. Enfin, j'avais trouvé le film, les bras m'ont tombé. Je me souviens très bien être sorti de la salle et je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Ah, qu'est-ce que c'est con !» Et un spectateur qui se retourne, il me dit « Ah, merci
!» Donc j'ai crié ce matin, moi. C'est trop con.
J'étais pas le seul. Et après... Puisqu'on passe à The Wrestler, qui était après, hein, si mes souvenirs sont bons.
Non, c'était avant.
Oui, parce que du coup, on l'a passé, qui est pour. pour le coup, je trouve que ses ambitions étaient revues un petit peu à la baisse. C'est un film
beaucoup plus
simple,
intime,
beaucoup plus simple,
moins fantastique,
mais qui n'arrive pas à la cheville de son modèle, ce qui est Rocky, quoi. Mm. Et encore, je suis gentil. Mais il y a toujours ce truc sur le casting, et je trouve qu'avoir choisi Mickey Rourke ouais, avec la gueule qu'il avait à l'époque, tu méfiais avec toutes les bastons qu'il avait faites. Il y avait un truc qui faisait qu'il était émouvant, quoi, malgré tout. Même si le film et l'écriture, ça n'arrive pas du tout, encore une fois, à la cheville de Rocky. Quoi.
Mais personne ne peut arriver à la cheville de Rocky, non, Julien.
Certes, voyons, je suis d'accord. Mais enfin, quand tu le cites comme ça et que tu décales comme ça,
c'est sûr que forcément,
ça la fout un peu mal. Quoi.
Avant de se quitter, on va faire quand même, les amis, comme d'habitude, quelques recommandations d'usage. Alors, on peut rester dans l'univers d'Aronofsky, mais c'est pas obligé, surtout qu'on a pas mal couvert sa filmographie. Julien.
Je vais m'éloigner un peu du coup, parce que je ne suis pas non plus un gros fan du mec. En fait, il se trouve que Aronofsky a très longtemps travaillé au développement d'un Batman pour la Warner. On l'a un petit peu oublié. Et c'était l'adaptation avant les Nolan.
Préservé.
Alors oui, parce que bon, je pense qu'il l'aurait foiré, puis il l'aurait truffé de trucs un peu poseurs chiants. Mais la bonne idée, c'était que c'était une adaptation de Batman Année Zéro, qui est une BD géniale. Donc si vous l'avez jamais lu, je vous conseille de le lire. Et en plus, qui a intéressant, c'est que vous verrez à quel point Nolan s'est copieusement servi de cette relecture qui revient sur les origines de Batman à toute cette époque postmoderne en fait, qu'a connu le personnage dans le courant des années 80. Bon, il y avait Frank Miller dans le coup, évidemment.
Et Matt Kelly au dessin.
Voilà, qui sont à tomber. Je vous le conseille. Vous pouvez, si vous êtes fan de Aronofsky, rêver à ce que Aronofsky aurait fait avec ce Batman de Year One.
Voilà. Anaïs.
Moi, j'aimerais bien recommander Baby Driver, qui était en salle cet été.
Et auquel on a consacré une émission.
Ouais, voilà. Et qui est vraiment, enfin, moi, qui m'a fait mon été, quoi. C'était vraiment un petit film sympa, vraiment ultra déjanté, avec une très bonne bande originale. Et voilà.
D'accord. Vous pouvez aussi réécouter notre émission où on avait dit tout le grand bien que nous pensons d'Edgar Wright dans cette équipe. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique, au bar à bulles et au public pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. En attendant, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.